Bonjour à tous. Le 26 novembre, c'est l'heure de vous présenter Voix de service, le volet magazine. Le tour de table sera bref ce matin. Nous sommes deux.
Deux, mais pas n'importe quel deux.
Oui, vous entendez Serge Hamelin, là, Roger Roy,
celui
qui
vous parle.
Nous ne
sommes pas des deux de pique.
Et nous sommes d'attaque.
D'attaque.
Ah, ben, c'est ça. Avez-vous des sujets à nous proposer pour la première demi-heure, Serge?
Ah oui. Vous savez que moi, je suis dans le domaine de l'écologie depuis quelques temps et je suis dans la revue. Je prends les articles. Êtes-vous vraiment écolo? Et puis, on va parler du gaspillage.
Gaspillage.
On va parler du choix limité pour les midis pressés. Vous savez, les produits, là, qui sont déjà préparés, congelés.
Puis ensuite, c'est tout?
Non, pour la première partie.
C'est un programme. Moi, je vais vous parler des ondes électromagnétiques. Est-ce que c'est dangereux? J'ai hâte de savoir ça.
Hein.
Mais pour l'instant, je vais vous parler des bonnes nouvelles pour la planète Terre.
Ah oui. Dites-moi, les ondes électromagnétiques, est-ce que c'est le micro-ondes, ça?
Ah oui.
Ben oui, le fameux micro-ondes.
Oui, c'est ça, lui aussi. Il y a bien des appareils là-dedans. On va tous les énumérer, tout ça. Il y a des etc. aussi, parce qu'il y en a plusieurs, là, qu'on ne connaît pas. Bon, alors, ça va vous faire plaisir, Serge. Je commence par des bonnes nouvelles. Je sais que vous êtes friand de bonnes nouvelles. Vous voulez
toujours
même créer une émission qui est comme...
Oui, effectivement.
Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour la planète Terre, la planète bleue. Ça, c'est dans la sélection du Reader's Digest du mois de décembre. C'est un texte de Damien Carrington. Soutenu par des investissements dépassant 1 000 milliards de dollars, quelques initiatives indiquent que l'humanité semble être sur la bonne voie pour éviter les conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Certaines, comme l'énergie renouvelable, sont déjà intégrées à notre quotidien. D'autres sont en train de conquérir le marché de masse. C'est le cas de la voiture électrique. Mais il y en a encore de plus récentes, comme les substituts de viande à base de végétaux. Tout cela concourt à prouver qu'il est encore possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La lutte contre un changement climatique catastrophique qui provoquerait inondations, sécheresses, famine et migration massive n'est certes pas gagnée. Il est fondamental de reconnaître que la menace est sérieuse, insiste Cristiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cela dit, nous voyons surgir de très nombreuses réorientations salutaires. Un avis que partage Michael Leibrich, fondateur de Bloomberg New Energy Finance. La bonne nouvelle est que ça va beaucoup mieux que nous ne l'appréhendions. Il sera difficile de s'en tirer sans dommage, mais nous pouvons encore éviter le pire. L'économiste et spécialiste du climat, Nicolas Stern, de la London School of Economics, est plus prudent. C'est le début d'un mouvement qui pourrait suffire. Notez qu'il n'est question que d'un début, et encore, c'est un début au conditionnel. Première bonne nouvelle, c'est pour le méthane et la viande. Si le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre produit par la combustion d'énergie fossile, le méthane et le protoxyde d'azote restent une préoccupation en raison de leur toxicité élevée. L'élevage de bétail en est la principale source avec le fumier et les gaz produits par la digestion des bovins. L'intérêt mondial pour la viande et les produits laitiers suit la croissance des revenus individuels, et si l'on n'inverse pas cette tendance, il sera impossible de lutter contre le réchauffement climatique. Le défi est de taille. Personne n'aime se faire dire quoi manger. Une des solutions a fait une apparition remarquée sur le marché cette année. La viande, entre guillemets, végétale, qui laisse une empreinte écologique très réduite. Cela peut sembler paradoxal, de la nourriture végétale qui a l'apparence et le goût de la viande ou des produits laitiers, mais ces produits ont attiré l'attention d'importants investissements, notamment d'investisseurs, notamment aux États-Unis, où Bill Gates a soutenu deux entreprises de hamburgers à base de végétaux. Plus révélateur encore, les géants de la production de lait et de viande, comme Tyson, la première société de transformation de viande aux États-Unis, et les multinationales Danone et Nestlé se disputent les investissements et les acquisitions dans ce domaine. En 2017, le gouvernement chinois a investi quelque 400 millions de dollars dans des sociétés produisant de la viande in vitro pour réduire les émissions de gaz. Tous les mois, de nouveaux produits à base végétale imitant le poulet, le poisson ou le fromage apparaissent sur le marché. Nous en sommes au balbutiement, reconnaît Alison Rapchnok de l'association Good Food Institute. Non seulement ces aliments sont plus respectueux de l'environnement et plus sains, mais ils règlent du même coup la question du bien-être des animaux. Toutefois, cela ne leur suffit pas pour pénétrer le marché de la grande consommation. Ils devront devenir plus concurrentiels en termes de goût, de prix et d'avantages. Les laits végétaux, soya, amandes et avoine, etc., ont ouvert la voie. Ils occupent aujourd'hui environ 10 % du marché aux États-Unis et représentent à eux seuls un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars. Au cours de la dernière année, les ventes d'autres substituts de viande et de produits laitiers ont augmenté de 8 % aux États-Unis et certains produits, comme le yaourt, jusqu'à 55 % d'augmentation. Ce n'est qu'une question de temps, assure Alison Rapchnok, d'ici 30 ans. Nous aurons cessé de tuer les animaux et la viande sera produite en laboratoire ou sera végétale, affirme pour sa part l'entrepreneur milliardaire Richard Benson. Alors, une bonne nouvelle, peut-être qu'on va y arriver, mais ça peut prendre du temps. Serge.
Oui, alors moi je poursuis dans la veine écologique. Hein. Je te dis que ce matin on va sauver la planète, mon ami. Aux revues, le gaspillage. À en croire leurs poubelles, les Québécois mangent au rythme des dates de péremption et achètent plus que ce dont ils ont besoin. Qu'en est-il vraiment? Le chiffre impressionne. Un tiers de la nourriture produite sur la planète est perdue ou jetée. D'après les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Des pertes qui ont de lourdes conséquences pour l'environnement, souligne l'organisme dans son rapport Food Wastage Footprint Impacts on Natural Resources, publié en 2013. Chaque fois que vous jetez un concombre flétri, un restant de spaghetti ou un yogourt périmé, ce sont des terres, de l'eau, de l'emballage et des camions de livraison qui ont été utilisés en vain. Hein, je ne veux pas rendre ça dramatique, là, mais tu sais, à mon ton, ça peut l'être. À l'échelle planétaire, le gaspillage alimentaire rejette 3,3 gigatonnes de gaz à effet de serre par an, selon la FAQ, soit l'équivalent de la moitié des GES produits par les États-Unis. À qui la faute? Eh bien, dans les pays industrialisés, 40 % du gaspillage alimentaire survient dans les commerces et les foyers, entre autres avec les bouteilles d'eau jetables, signale la FAQ, mais difficile de savoir quelle quantité de nourriture jettent les Québécois puisque les chiffres manquent ou représentent des estimations, relève Eliane Brisebois, coordonnatrice et agente de recherche à la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. Ah, il y a des études qui se font, hein? Publiées en 2009, les plus récentes données de Statistique Canada à ce sujet révèlent qu'en 2007, les pertes d'aliments solides vendus au détail étaient estimées à 38 % du total, soit l'équivalent de 183 grammes par personne, kilogrammes par personne. Or, ces déchets coûtent cher. En 2014, 31 milliards de dollars de nourriture ont été jetés au pays, dont près de la moitié, 47 % par les consommateurs, selon une étude de Value Chain Management Center, un centre de recherche canadien spécialisé dans les produits agroalimentaires. Mais il s'agit de gaspillage en valeur financière, pas en quantité d'aliments. Et la carotte vaut moins dans le champ que dans le frigo, nuance Eliane Brisebois. Ça représente tout de même environ 20 $ d'aliments que les ménages québécois mettraient aux ordures ou au compost chaque semaine, calcule le site du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et pourquoi les Québécois perdent-ils autant d'aliments et d'argent? Ah, ben oui, c'est ce qu'a voulu savoir Protégez-vous, en collaboration avec le Centre de recherche, Organisation, Société et Environnement. La chaire de recherche du CARM sur la transition écologique et la transformerie, un organisme à but non lucratif dont le mandat est de donner une seconde vie aux aliments invendus des épiceries. Alors, résumé. 58 % des Québécois croient qu'encourager les commerçants à donner les aliments invendus est la solution idéale pour réduire le gaspillage. Maintenant, meilleur avant, mais bon après? Notre sondage, mené auprès d'un échantillon de 1026 personnes, nous a permis de connaître la perception qu'ont les Québécois de leur consommation alimentaire. Ces résultats montrent que le respect des dates de péremption constitue la cause principale de leur décision de se débarrasser de certaines denrées. Près de 3 répondants sur 10, 28 % indiquent ainsi que la mention « meilleur avant » est ce qui les incite le plus à jeter la nourriture. L'enquête montre également que plus du tiers, 37 % des sondés, souhaiteraient disposer de fiches informatives concernant les dates d'expiration des produits achetés à l'épicerie. Un besoin pris en compte par le Conseil national zéro de déchets qui, dans un récent rapport, recommande de revoir les termes aujourd'hui en vigueur. Des formules telles que « consommer avant », « congeler avant » ou « meilleur goût avant » devraient aider les consommateurs à y voir plus clair, estime l'organisme canadien qui regroupe des entreprises du secteur alimentaire, des représentants gouvernementaux ainsi que des organisations non gouvernementales. Il y a une confusion entre salubrité et fraîcheur. Or, très peu de produits sont dangereux à la consommation une fois passée la date de péremption, souligne Marianne Taillefer, organisatrice communautaire à Sauve ta bouffe, une association qui propose des trucs pour lutter contre le gaspillage. La date de péremption est garante de la fraîcheur, du goût et des valeurs nutritionnelles d'un produit, précise l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur son site.
Devrait-il y avoir deux dates?
Ah, il devrait y avoir toutes sortes de choses. Mais cela ne signifie pas forcément mauvais après. On recommande, c'est ça l'affaire, là, voyez-vous, on recommande désormais aux gens de se fier davantage à leur sens, c'est-à-dire à l'odeur, à la texture et au goût. On y goûte avant, là, tu sais, c'est bon, c'est pas bon. C'est plus... Non, mais tu sais,
c'est ça.
Non, mais t'es perdu dans le bois, ben, là, oui. Tu sais, puis là, t'as faim, là.
Tu trempes ton doigt dedans,
ben, voilà. Oui, alors, on continuera ça un peu plus tard, si vous voulez.
C'est bon.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette. le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Boris Vian et la complainte du progrès.
Oui, c'est dans les années 50, je pense qu'il a fait cette chanson-là. Il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas à ce moment-là des cellulaires, les Wi-Fi, les Bluetooth, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et ça, ça fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Je vous lis un texte que j'ai pris dans le bel âge du mois de décembre. Il est signé, ce texte, par Isabelle Bergeron. « Dangereuses les ondes ?» Point d'interrogation. Les ondes électromagnétiques proviennent d'un champ électrique couplé à un champ magnétique. Le premier se crée lorsqu'un appareil est mis sous tension sans néanmoins être en marche. Le second existe lorsque l'appareil est allumé et sa puissance dépend de l'intensité du courant électrique. Une chose essentielle à retenir, plus on est près de la source d'exposition, plus intense est notre exposition et le contraire est aussi vrai. Ainsi, selon Mathieu Gauthier de l'Institut national de santé publique du Québec, même notre réveil matin émet plus d'ondes qu'une ligne à haute tension qui se trouve à une distance de 300 mètres de nous dans le ciel. Alors, on pourrait penser le contraire, mais le réveil matin, là, ça émet des ondes. Dans le spectre des ondes électromagnétiques, on retrouvera les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges et la lumière visible. Ces ondes sont émises par nos appareils électriques, nos écrans, nos cellulaires, le Wi-Fi, le Bluetooth, le laser, etc. Ces ondes se classent selon leur longueur et leur fréquence, c'est-à-dire qu'elles transportent plus ou moins d'énergie sur une plus ou moins longue distance. Dans ce spectre, on retrouve aussi les ondes ionisantes, comme les UV, les rayons X et les rayons gamma. Le danger des ondes ionisantes a été maintes fois prouvé et reconnu. Elles peuvent causer des brisures dans les brins d'ADN et augmenter ainsi les risques de cancer. Les autres sont-elles inoffensives pour autant? Bien qu'un nombre important d'études sur les dangers des ondes électromagnétiques pour la santé humaine avance qu'elles n'ont pas d'impact significatif, leurs détracteurs estiment le contraire. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les données et les résultats des différentes études sont ambiguës et parfois contradictoires, explique le Dr Jack Siemiatkowski, professeur en médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Cela laisse beaucoup de marge à l'interprétation, et les experts peuvent interpréter les mêmes données de différentes façons. Pour Mathieu Gauthier, les études des dangers potentiels des ondes électromagnétiques pour la santé humaine ont commencé en prévention de ces dangers et non pas en réaction à des cas réels, à des cas vécus, à des cas éprouvés. Pour lui, une faible exposition à ces ondes n'a pas d'effet nuisible sur la santé. Mais pour le docteur Paul Héroux de l'Université McGill, les dangers des ondes sont réels. Il explique qu'avec notre téléphone collé sur notre tête, on n'est plus que jamais exposé aux ondes électromagnétiques. D'autres scientifiques partagent ce point de vue et estiment qu'en plus des risques de cancer du cerveau, le cellulaire pourrait, au conditionnel, développer des maladies neurologiques comme le Parkinson et l'Alzheimer. Au Québec, par exemple, on a connu l'épopée des compteurs intelligents d'Hydro-Québec qui font la cueillette des données grâce aux ondes radio, et c'est un cas intéressant. Ici encore, les constats divergent, mais la majorité n'y voit aucun risque prouvé pour notre santé. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne peut prédire l'avenir, admet même Mathieu Gauthier, mais les études menées sur des animaux, sur des cellules en laboratoire, n'augurent rien en ce sens. Il est néanmoins pertinent de poursuivre les recherches dans les années à venir, tout le monde en convient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'est pas convaincu de l'innocuité des ondes électromagnétiques, on ne peut pas vraiment s'isoler sur une île, ni se couper totalement de ses ondes, on se rassure néanmoins en adoptant ces différents gestes, on diminue l'utilisation de notre cellulaire et on se dote d'un kit main libre. Plus on est proche de la source des ondes de radiofréquence, plus celles-ci sont fortes. Tenir notre téléphone près de notre oreille entraîne une exposition beaucoup plus élevée que le Wi-Fi ou le Bluetooth. On s'assure aussi que notre four à micro-ondes est en bon état. Moi, je m'en tiens toujours un peu loin, là, parce que je suis un peu toujours craintif. On s'assure qu'il est en bon état. Aucune étude n'a prouvé que les micro-ondes augmentaient les risques de cancer, mais si on veut s'assurer que les concentrations de radiation électromagnétique respectent les normes, on veille à bien entretenir notre four, comme le recommande Santé Canada. Puisque la loi de proximité s'applique à tous les appareils qui émettent des ondes, radio-éveil, ampoules fluo-compactes, téléviseurs, etc., on garde ces derniers éloignés à plus d'un mètre des endroits où l'on passe plusieurs heures d'affilée, par exemple, si c'est le cas, si c'est votre cas, Serge, dans votre lit. Plusieurs études sont toujours menées concernant les risques potentiels des ondes électromagnétiques sur la santé, par exemple des études de cohorte prospective, lorsqu'on compare un groupe exposé à l'incidence d'une maladie ou à un autre qui ne l'est pas, sur l'utilisation du cellulaire sont actuellement en cours. Alors, il faut se méfier, mais évidemment, c'est la proximité qui fait problème.
Alors, nous qui sommes à la radio ce matin, on dit bienvenue en ondes. Nous sommes en ondes. Est-ce que les ondes sont bonnes pour nous ou
j'ai
pas
dit
bonnes?
J'ai dit...
Je ne sais pas, mais à chaque fois que ça s'ouvre, les ondes, là, je ressens quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, les bonnes affaires à la bonne place. On continue avec notre gaspillage. On n'a pas fini avec ça. Hein? Notre sondage montre qu'environ 15 % des personnes interrogées croient que ranger... Ah, ça, c'est une autre affaire, ça. Hein? Ranger les aliments au mauvais endroit dans le frigo et les placards contribue fortement au gaspillage. Là, ouvrez bien vos oreilles. Un réfrigérateur et... des armoires désorganisées les amènent à jeter des produits que autrement elles auraient consommés. Go. Pour améliorer au maximum la conservation des aliments, Sauve ta bouffe, rattaché à l'organisation environnementale internationale Les Amis de la Terre, recommande d'abord de respecter les zones climatiques du réfrigérateur. Par exemple, où on met le lait, Roger?
Oui.
Où on le met, le lait, dans un réfrigérateur?
Oh, ben, je sois bien visible.
Alors, par exemple, mettez le lait où vous voulez dans le réfrigérateur, sauf dans la porte. Eh bien, mon lait, il est dans la porte.
Oh, non, pas dans la porte, jamais.
Il va falloir que je change de place. Puisque c'est l'endroit le plus chaud. Là, mais il n'y a pas le temps de virer mon lait parce que je suis un amateur de lait. Bon. Alors, la viande va sur la tablette du haut ou du bas? La viande, elle va sur la tablette du bas éviter la contamination des autres aliments.
Ah, c'est bien connu, ça.
Oui. Hein. Et les produits qui n'ont pas encore été ouverts ou qui se gardent plus longtemps, comme les boissons ou les pots de cornichons, doivent être placés au fond. Bon, ben,
au fond.
Ils sont là, ils sont au fond, moi,
ouais, hein?
Du frigo, là.
Oui, oui. Ouais, est-ce qu'il faut attention à la date de péremption, par ailleurs?
Non, ça fait rien. Autre truc, non, mais des cornichons, je te dis que c'est long avant de pérempter.
Au moins 10 ans.
Autre truc, pour éviter d'acheter des produits que vous possédez déjà. Oui, ça, c'est ça, oui. Alors, dressez l'inventaire du frigo et des placards avant d'aller faire vos courses. Et la tâche sera plus facile si vous rangez les mêmes aliments toujours au même endroit, dans le réfrigérateur et les armoires, suggère la MAPAQ. Et si vous trouvez un aliment périmé, il est parfois encore possible de l'utiliser, insiste Marianne Taillefer. Le lait à cailler, alors pourquoi ne pas en faire du babeurre? Oh, plein. Même les épluchures de légumes... de préférence bio pour éviter les pesticides, peuvent avoir une deuxième vie, par exemple, dans un bouillon de légumes. Oui, c'est bon, c'est vrai. Il y a toutes sortes de trucs. Et différents sites, comme celui des banques alimentaires du Québec, proposent des recettes anti-gaspillage. Ça, je ne savais pas. Et composter, hein, le fameux compost. Un sondage mené en 2017 par la Natural Resources Defenses Council, un groupe environnemental américain, révèle que plus de la moitié, 58% des habitants de Denver, Nashville et New York déclarent se sentir moins coupables de jeter des aliments lorsqu'ils les compostent. Au moins, c'est-à-dire au point que dans la grosse pomme, les ménages qui compostent gaspillent plus de nourriture que les autres. Alors, format familial. Et enfin, notre enquête montre que le trop grand format de certains aliments vendus en épicerie représente un autre facteur qui amène 13% des Québécois à gaspiller. Qui n'a jamais jeté une botte de coriandre, oui, j'en ai jeté la semaine passée, ou de persil après en avoir cuisiné quelques feuilles seulement, même si la majorité des consommateurs, 70%, disent cuisiner, congeler et sécher dès que possible les denrées qui se défraîchissent, 14% d'entre eux gaspillent des fruits et des légumes encore comestibles au moins une fois par semaine. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Pourtant, Mme Taillefer, assure qu'il est possible de prolonger leur durée de vie. Traitez-les comme des plantes, conseille-t-elle. Hein? Par exemple, vous pouvez déposer certains légumes comme le salade, la céleri, les radis et les fines herbes dans un verre d'eau. Enveloppez d'un sac de plastique et rangez au réfrigérateur. Et tous les intervenants interrogés s'entendent néanmoins pour dire que la meilleure façon de réduire le gaspillage consiste à donner à des voisins, aux amis ou à des réseaux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous n'avez pas de voisins? De dons alimentaires comme les organismes affiliés aux banques alimentaires du Québec et les frigos communautaires du Québec qui favorisent l'échange de denrées que vous avez en surplus. Je termine en disant ceci, des points de dépôt répartis dans la province, accepte les fruits et légumes entiers. Voilà.
Ah, et voilà, c'est la première partie de l'émission.
Il y a du travail à faire.
Nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure du magazine. Refusez-vous. Bon, alors, Serge, avez-vous d'autres textes à nous proposer pour cette deuxième demi-heure?
Ben oui, ben bien sûr que j'ai d'autres textes à vous proposer. Et vous, qu'est-ce que vous avez à lire, là?
Je commence par un texte sur les clous rouillés.
Oh, c'est beau, ça.
C'est bon. Hein, c'est un sujet appétissant.
Je suis tout ouïe. Bon. Ça se conserve-tu, ça?
Dans son édition de novembre, l'actualité consacre la moitié d'une page à une photographie. Là, il y a à peu près deux douzaines de clous rouillés. Et la légende sous cette photo, c'est « Faut-il avoir peur du tétanos? »
Oh, mon Dieu.
Ça, par exemple.
C'est ça.
Mais là, c'est des bonnes nouvelles. Moi, aujourd'hui, je n'ai que des bonnes nouvelles.
Je suis content de savoir ça.
Bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les piqûres.
Excellent.
Le comité sur l'immunisation du Québec recommande qu'on remplace les rappels de vaccination contre le tétanos que nous sommes censés recevoir tous les 10 ans durant toute notre vie par un rappel unique vers l'âge de 50 ans pour les personnes qui ont reçu toutes les doses du vaccin dans l'enfance. Encore faut-il savoir si vous avez reçu toutes les doses dans l'enfance.
Jamais dans 100 ans.
On ne sait pas. Le tétanos est causé par un bacille vivant dans la terre, la salive et les déjections animales et humaines, ainsi que sur les surfaces rouillées, d'où les clous.
Ah, c'est ça, l'histoire des clous.
C'est ça, ben quand on disait ça aux enfants, faites attention, jouez dans les...
Bien sûr, on disait tout, faites attention à tout.
Marchez pas sur des clous rouillés. Une simple éraflure peut suffire à faire pénétrer la bactérie dans le sang. Elle libère alors une neurotoxine ultra-puissante qui provoque des spasmes musculaires tellement violents qu'ils peuvent briser les os. La maladie commence quelques jours ou quelques semaines après l'infection par une contraction involontaire des mâchoires.
C'est ça vos bonnes nouvelles, vous, un matin?
Le trismus. Non, non, ben attendez, il y a une bonne nouvelle.
Ah oui, ben allez-y. Hein.
Non, ben il n'y a pas de piqûre, puis il y avait un autre point tout à l'heure. Il n'y a plus besoin de piqûre avant 50 ans.
D'accord.
Elle est mortelle dans 20 ans. Tiens, ça, c'est pas logique dans ce que je viens de dire, parce qu'elle est mortelle, cette maladie, dans 20 à 30% des cas. La bactérie qui se trouve presque partout sur la planète ne peut pas être éradiquée. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, le tétanos est rarissime dans les pays développés parce que l'hygiène et la désinfection des plaies se sont améliorées et parce qu'on dispose d'un vaccin aussi efficace que sûr. Aujourd'hui, Serge, il y a en moyenne 3,3 cas de tétanos par année au Canada. Il me semble que c'est pas beaucoup. Hein. Bonne nouvelle, ça. Mais dans les pays en voie de développement, la maladie tue encore environ 50 000 personnes chaque année, surtout des nouveau-nés de mères porteuses de la bactérie. En 20 ans, le nombre de décès a cependant diminué de 96 % grâce à la généralisation du vaccin que reçoivent aujourd'hui 86 % des bébés dans le monde. Autre bonne nouvelle. Au Québec, 4 doses de vaccin doivent être données aux enfants à 2, 4, 6 et 18 mois. Jean-Sébastien est au courant de tout ça. Puis une autre entre 4 et 6 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Puis une entre 4 et 6 ans et une autre entre 14 et 16 ans. On recommandait ensuite de recevoir une dose de rappel tous les 10 ans, mais après un réexamen de l'immunité conférée par les vaccins et une analyse des pratiques dans d'autres pays, le Comité sur l'immunisation du Québec a estimé qu'une seule dose de rappel vers l'âge de 50 ans offrirait la même protection aux adultes qui ont été vaccinés dans l'enfance. Seuls 2 Québécois sur 5 sont à jour dans leur rappel de vaccin contre le tétanos. Et cette nouvelle façon de faire, plus simple à mémoriser, protégera mieux la population. Une preuve que les autorités savent éliminer les vaccins quand ils ne sont plus nécessaires. Ça fait plaisir à certaines personnes qui sont hostiles à toutes sortes de vaccins, y compris contre la grippe. Ce texte a été rédigé par Valérie Bard et paraît dans l'actualité du mois de novembre.
Alors, on poursuit avec le gaspillage. Bye bye, Costco.
Hein?
Ah, Costco, c'est ça, Costco. Au Québec, les plus grands gaspilleurs sont les ménages aisés ayant un revenu familial supérieur à 150 000 $, révèle le sondage. Ils font l'épicerie le plus souvent, soit plus de 3 fois par semaine, et fréquentent davantage les grandes surfaces comme Walmart et Costco. Si vous achetez dans ces enseignes, questionnez-vous sur le type de consommateur que vous êtes. Conseil Marianne Taillefer, organisatrice communautaire à Sauve ta bouffe. Les publicités pour inciter à acheter en gros parce que le prix est moins cher au poids sont nombreuses. Mais on ne fait pas d'économie quand on finit par acheter la moitié de ce qu'on a acheté. Hein? Tout dépend aussi des produits, ajoute-t-elle. En effet, si un sac de riz grand format peut se conserver des années, le pot de mayonnaise, lui, de 4 litres, devient périmé au bout de quelques mois. Ah, alors, il faut faire attention. Ben oui, la mayonnaise, ça vire. C'est-tu encore bon? Hein? Alors, pour éviter de jeter inutilement des aliments toujours consommables, voici ce qu'on devrait savoir. Longue vie à ces produits. Et comme ils ne permettent pas la croissance de bactéries nocives pour la santé, ces aliments peuvent être consommés plus d'un an après la date meilleure avant. Plus d'un an. À condition qu'ils ne soient pas altérés. Les céréales sèches, pâtes, riz, légumineuses, farine et sucre. Sauf si vous y trouvez des mites, ce que j'ai trouvé, moi.
Mites?
Oh, c'est effrayant. Des insectes. J'ai ouvert le sac, c'est parti à voler. Mon Dieu, quelle horreur. Ou des moisissures. Mais en général, ça se conserve longtemps. Mais ça doit faire très longtemps que je l'avais d'ailleurs. Alors, les boîtes de conserve. Alors, ça se conserve, ça. Hein? Ça dit boîte de conserve. Si la boîte est rouillée ou bombée. OK? Ah ben ça se conserve plus, ça. Quand vous voyez qu'elle bombe, là, essayez pas de l'ouvrir parce qu'elle va péter. aliments surgelés. Alors, s'ils ne sont pas desséchés ou ne dégagent une odeur rance due au congélateur, c'est encore bon. Les aliments, plus d'un an après.
Ah oui.
Ben oui. Le miel. S'il se cristallise, eh bien, il suffit de le chauffer au bain-marie, il va se décristalliser et il va de revenir miel. C'est encore bon, là, voyez-vous? Des fruits et légumes frais entiers et fromage à pâte ferme. Jamais je croirais que ça dure plus d'un an, cela. Vos carottes, navets ou votre cheddar sont couverts de moisissures. Les aliments durs peuvent être coupés à 2,5 cm autour de la partie moisie, puis être mangés.
Et monsieur.
Je fais ça, moi, avec des fromages, des fois.
Il faut bien ajuster son couteau, là.
Par contre... non, mais on enlève la partie moisie, là. Par contre, jetez les aliments mous, notamment la confiture, car les moisissures y pénètrent plus facilement. Les œufs. Ah, ça, c'est un bon truc, ça, les œufs.
Oui.
Essayez ça. Tu sais, on se demande si l'œuf est encore bon.
Oui,
j'avais
oui,
oublié
oui.
ce truc-là. Ben là, si vous plongez dans l'eau un œuf et qu'il flotte, c'est qu'il n'est plus bon.
Ah?
Oui, monsieur.
Oh.
Ouais. Alors, si vous plongez dans l'eau un œuf et qu'il flotte, c'est qu'il n'est plus bon.
C'est pas la date de péremption qui compte, là. C'est ça, là.
Non, mais si vous voulez savoir, vous avez des œufs, là,
oui.
Bon. Alors, du pain. Plongez pas ça dans l'eau, là. Éliminez tout produit de boulangerie qui présente des traces de moisissure. Ça, c'est mieux.
Oui.
Puis le beurre, les margarines, l'huile et les marinades, ces produits peuvent rancir, ce qui n'est pas nocif en soi, mais ça gâte leur saveur. Hein? Et le yogourt.
Oui.
Et les kéfirs. Hein? Kéfir. Vous connaissez? Louis de Funès, le kéfir. Alors, un test mené par le magazine français 60 millions de consommateurs révèle que les yogourts gardent la même qualité au moins 3 semaines après la date de péremption. Au moins 3 semaines. Minimum 3 semaines. Ça veut dire que ça peut se garder plus longtemps encore. Alors, voyez-vous...
Oui.
Hein?
C'est intéressant à lire ça. Il faudrait le lire là, pour les dates, là, pour les prolongations. Puis tout ça, là.
Hein? Qu'est-ce que vous me dites, vous?
Il faudrait lire ça. C'est écrit où, ça?
Hein? C'est dans la revue Protégez-vous.
Ah, c'est tout.
D'octobre 2018, voyez-vous.
Ah,
on
oui.
est juste en novembre. Fait que c'est pas périmé.
Durabaxacette pour mon mal de dos.
Durabaxacette pour mon mal de dos. Durapi, tu sais, pour mon rhume de cerveau. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Durabi, tu sais, pour mon rhume de cerveau.
Durabi, tu sais, pour mon rhume de cerveau.
De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.
Pour mon lumbago.
Un peu de ginseng pour ma libido.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Viagra pour me remonter le moineau.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux,
marmonter le moineau.
Et puis du Viagra pour marmonter le moineau.
Et de la nicorette parce que je fume ben trop.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.
Parce que je fume ben trop.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Avec tout ça dans le corps.
Avec tout ça dans le corps.
Je mourrai pas de sitôt. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Okay.
Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Mes aïeux, et la pièce Remède Miracle, sûrement des remèdes miracles contre le tétanos, est-ce qu'il y a des remèdes miracles contre le gaspillage? Ça, c'est une autre question.
Oh, mon Dieu.
C'est ça. Ben là, il y a des bonnes nouvelles quand même, par ailleurs.
Ça n'arrête pas les bonnes nouvelles, surtout venant de votre part.
Ah oui, les bonnes nouvelles, mais là, je parle de la planète Terre. Là.
Ah, la planète.
Ben si la planète Terre est en santé, nous le sommes, nous aussi.
Ben pas. Oui, après, ben oui, dire ben ça, oui. Non, mais vous savez les sacs en plastique là, qui flottent sur l'océan, là?
Oui, oui, oui.
Je me demande pourquoi il n'y en va pas des gros bateaux pour les ramasser.
C'est vrai, mais il y en a tellement.
Ben oui, mais
ça
quand même.
Ça prendrait une flotte de gros bateaux.
Non, mais au lieu de laisser ça...
Ben, hey, il faut d'envoyer des bateaux pour l'instant, on envoie des baleines.
Ah, ben oui.
Ben oui, c'est ça. Non, mais ils retrouvent les poissons, ça n'a pas de bon sens. Ils retrouvent les poissons avec du plastique dans le ventre.
Oui.
En tout cas, allez-y donc pour les bonnes nouvelles.
Les bonnes nouvelles. Ah oui, les bonnes nouvelles pour la planète, là.
Ouais.
Énergie renouvelable.
Ah.
Des idées lumineuses.
Ooh.
La révolution de l'énergie renouvelable reste la plus avancée. Les bonnes nouvelles. Les coûts de production des panneaux solaires et des éoliennes ont chuté jusqu'à 90 % en 10 ans pour le solaire et continuent de baisser. C'est l'électricité la moins chère et les installations pour la produire sont en plein essor à travers la planète. En 2016, 2/3 de l'énergie produite était de l'énergie renouvelable. Cette croissance extraordinaire a de quoi surprendre. Les projections annuelles de l'Agence internationale de l'énergie prévoyaient une croissance linéaire annuelle de l'énergie solaire pour la dernière décennie. Elle a été exponentielle. La Chine mène le bal, mais on l'a ressenti dans le monde entier. En novembre 2017, en Allemagne, la surproduction d'énergie éolienne a été telle, pendant une semaine, que les consommateurs ont bénéficié d'électricité gratuite.
Eh bien, ça, c'est des bonnes nouvelles,
c'est
ça.
C'est des bonnes nouvelles, bon.
Et puis, ce qu'on prévoyait a été, a été dépassé.
Oui, exponentiel, une croissance exponentielle. Mmh. Le charbon, par ailleurs, est mort ou agonisant, peu importe ce qu'en dit M. Trump.
J'espère.
L'explosion des énergies renouvelables a entraîné l'agonie du charbon, la plus polluante des énergies fossiles. Sa production a culminé en 2013, mais la vitesse de son déclin a surpris les analystes.
Ah.
En 2013, l'Agence internationale de l'énergie prédisait une croissance de 40 % de la demande de charbon d'ici 2040. Elle est évaluée aujourd'hui à seulement 1 %
Eh bien, dis donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les charbonniers? Ils vont être obligés de se recycler?
Oui, mais c'est ça le grand problème qu'ils ont.
En éolienne, ils vont se recycler en éolienne.
Oui, c'est ça. L'explication est simple. Le coût inférieur des énergies solaires et éoliennes s'accompagne d'importants avantages. Dans une Chine étouffée par la pollution, on n'a pas besoin de charbon supplémentaire. Plus de 151 projets de centrales ont donc été mis en sommeil. Les faillites ont dévasté l'industrie houilière. H-O-U-I.
Pardon?
Houilière, les huiles? Houilière. Non, c'est H-O-U-I. Aux États-Unis, et en seulement 5 ans, la consommation de charbon
est passée...
Ouais,
ben
c'est de la houilière.
Houilière, c'est ça.
Et les faillites ont dévasté l'industrie houillère aux États-Unis. Et en seulement 5 ans, la consommation de charbon est passée de 40 à 7 % du marché au Royaume-Uni.
Oh.
L'an dernier, je craignais de devoir dire adieu aux 2 degrés Celsius à ne pas dépasser pour éviter un changement climatique dangereux si l'Asie construisait toutes les centrales au charbon qu'elle avait prévues, dit Michael Liebrich. Aujourd'hui, le nombre de projets a diminué en Asie. À son avis, il faudrait un autre point de rupture. Il surviendra quand le recours aux énergies renouvelables sera moins coûteux que l'entretien des centrales au charbon, ce qui entraînera forcément leur fermeture. Si le coût de production des énergies renouvelables continue de chuter comme prévu, cela se produira entre 2030 et 2040. Les voitures électriques maintenant. J'ai le temps, je crois.
Oui.
Là, c'est la voie rapide pour les voitures électriques. La réduction du recours au pétrole, un tiers de l'énergie mondiale, est un défi énorme, mais le marché en plein essor des voitures électriques à batterie commence à se développer, porté en grande partie par l'inquiétude croissante que provoque la pollution des centres urbains et par l'annonce de l'interdiction prochaine des véhicules roulant à l'énergie fossile dans les villes et des pays de Paris à l'Inde. Une fois de plus, la Chine est en tête. Il s'y vend tous les mois autant de voitures électriques que dans le reste du monde, dont un grand nombre issus d'usines nationales comme la BYD. Tesla, le constructeur américain, propose quant à lui un modèle 3 plus abordable. Tous les grands constructeurs automobiles se sont engagés récemment en faveur d'un avenir électrique. Le mouvement ne devrait pas faiblir, confie Victor Earl, analyste pour EV, Electric Vehicle Volume.com, la base de données mondiale en ligne sur les ventes de voitures électriques. Si le rythme de croissance se poursuit, jusqu'à 80% des nouveaux véhicules pourraient être électriques avant 2030. Le transport de marchandises reste un défi, mais les armateurs s'essayent eux aussi à l'énergie éolienne et aux batteries. Les avions électriques pour les moyens courriers sont en cours d'élaboration. D'après des estimations fondées sur les déclarations récentes des constructeurs automobiles, de 9 à 20 millions de voitures électriques pourraient être en circulation d'ici 2020 et de 40 à 70 millions d'ici 2025, estime Global EV Outlook, une publication de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, c'est un texte intéressant.
Ben, très intéressant.
De bonnes nouvelles pour
la planète. Ah, ben ça, c'est bon, ça.
Oui, par Damien Carrington. C'est dans la sélection du Reader's Digest du mois de décembre.
Bon, alors, commencez-vous à avoir un petit creux pour dîner? Oh, ça ne vous tente pas de faire à manger. Hein? Un petit repas congelé.
Oui.
Lequel choisir parmi les 155 plats qu'on propose et qui ont été analysés par la revue Protégez-vous? Eh bien, vous allez vous apercevoir que vous allez être limité. Ce ne sera pas 155 plats que vous pourrez choisir, mais plutôt 26.
Ah.
Seulement 26 valent le détour.
Mon Dieu,
c'est Élise Bergeron qui a écrit cet article-là, la journaliste, et Linda Gauthier, chargée de projet. Facile à réchauffer au four à micro-ondes, qui ne sont pas dangereux, finalement, hein, Roger? Oui. Les plats surgelés sont prêts en quelques minutes. Ce qui en fait une option prisée des travailleurs pressés ou une solution pratique pour les soirs de semaines occupés. En 2015, une étude de l'Agence de recherche et d'analyse de marché, Mintel, menée auprès de plus de 2000 Canadiens, montrait qu'une majorité de répondants percevaient les repas surgelés comme des aliments très transformés, de moins bonne qualité et moins santé que les plats cuisinés à la maison. Pourtant, si vous parcourez l'allée des surgelés au supermarché, vous constaterez que plusieurs de ces produits se présentent comme une option santé, composée d'ingrédients frais et nourrissants. Par exemple, l'uvotable. Sur la présence de grains entiers, de légumes verts comme le chou frisé et de poulet élevé sans antibiotiques. Le géant ConAgra, avec sa gamme Healthy Choice, on connaît ça, mise sur des repas minimalement transformés et sans rien d'artificiel, tandis que l'entreprise des aliments M&M affirme avoir changé pour le mieux et offrir dorénavant des plats qui ne contiennent aucun colorant, aucune saveur ni édulcorant artificiel. Et à cela s'ajoutent tous les Fitbowls, Smart Ones, cuisine minceur et autres bols énergie dont les noms évoquent à eux seuls la saine alimentation.
Mais il y a beaucoup de sel quand même dans ces produits-là. Est-ce qu'on en parle?
Arrêtez-vous là. Ces plats qui jouent la carte santé en intégrant edamame, riz brun et quinoa sont-ils à la hauteur de leurs prétentions? Et pour vous y aider à y voir plus clair, nous avons analysé 155 repas de poulet et de dinde surgelés offerts en portions individuelles, en incluant ceux qui, à l'opposé des produits, ciblent les gros appétits comme les repas Hungry Man, Crave et Swanson, à l'origine des TV Dinners créés en 1953 avec la télévision. Oui, avec la télévision. En tout, seuls 17 % des produits fournissent suffisamment de protéines et de fibres, de même que du sel, Roger,
du sel.
Et du sucre en quantité raisonnable.
Ah, raisonnable.
Oui, monsieur. Alors, voici ceux à rechercher en magasin. Vous avez vos crayons?
Oui.
Alors, prenez ça en note. En première position cette semaine... Il y en a 26 qui sont mangeables. Oui. Alors, je ne vous donnerai pas les 26, mais les quelques... Vous m'arrêterez quand vous serez au bout de votre rouleau. Alors, le Healthy Choice, qui est à 94 %, c'est une bonne note, ça. Healthy Choice Simply Poulet Grillé au Pesto avec Légumes. Je pense que je vais manger ça pour dîner, moi.
Ça serait bon.
259 grammes. OK. Donc, c'est un demi-livre, ça, là? Oui, OK. On trouve ça chez Métro et puis tout ça, là. Alors, 94 %, ça coûte quand même 4,49 $. Hein?
Ben, c'est pas très cher.
OK. Le meilleur marché dans les meilleurs, là, c'est le Irrésistible Mieux-être Poulet Parmigiana. Irrésistible. Oui. 2,99 $.
Serge,
c'est bon, ça?
Deux autres, Serge, puis ça va être tout.
Oui, à 3,49 $, le choix du président, menu bleu, quinoa du sud-ouest avec poulet. OK?
Oui.
Puis un autre à 3,73 $, Healthy Choice, poulet grillé, Alfredo au poivron rouge, avec ça arrive à 92 %. Et c'est bon, ça?
Ah, c'est très bon. T'es dans Protégez-vous toujours, ça.
Je suis toujours dans le revue Protégez-vous. Avez-vous encore faim un petit peu? Est-ce qu'on a le temps pour un autre?
Non, nous sommes tout à fait rassasiés, je pense.
Nous sommes rassasiés en temps. Il reste encore 5 minutes, non?
Non, je sais.
Hein? Ben oui, j'ai le temps encore pour un autre, moi. Alors, vous voulez manger encore Healthy Choice Simply riz frit au poulet. C'est juste du poulet, on dirait. Ah, il y a pain de viande. Allô? Pain de viande à la dinde. Ben, poulet, dinde, pas mal pareil. Ben ouais, hein? Et pommes de terre pilées.
Bon.
C'est bon, ça?
Oui. Hey, c'est la fin de cette partie magazine de l'émission.
Vous parlez de fin, c'est la fin.
C'est la fin, oui, c'est ça. Okay. François Brodeur vous attend de l'autre côté de l'heure pour vous présenter la revue de presse. C'est ça?
Oui.
Bon. Alors, merci. Bonjour.
Alors, bonjour à tous.